toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue. Il est 17h, donc l'heure de votre Blabla Mix sur le mix des cultures que vous écoutiez depuis Principe Actif au 102.4 ou au 95.9 ou depuis Radio HDR, depuis le 99.1 ou sur internet, sur le site radiohdr.net. On est tous là donc pour ce fameux Blabla Mix du jeudi, le Blabla Mix plein de bonnes choses, puisqu'on va retrouver bien sûr votre agenda quotidien avec Madame Inchati. Bonsoir Inchati.
Bonsoir Damien.
Comment ça va Inchati ce soir ?
Ça va bien et vous ?
Ça va très bien, tu peux me tutoyer. Alors ça a été la préparation de l'agenda ?
Oui, ça va.
Très bien, très bien. Nous sommes également avec monsieur, bien sûr, Doc Mansour, qui va vous faire une plongée donc, dans le monde merveilleux de la psychiatrie. On commence à attaquer les années 30. On commence à attaquer les choses qui, si on était sur YouTube, nous voleraient notre monétisation, Doc Mansour.
Oui, tout à fait.
Super, bon, on va retrouver ça tout de suite après. Et puis bien sûr, il est avec vous, vous le savez, il est là, toujours présent au poste, monsieur Ousmane Diop. Bonsoir Ousmane.
Bonsoir Damien.
Est-ce que ça va bien Ousmane ?
Ça va, ça se présente pas mal.
Il pleut, mais bien.
Il fait pas froid, donc ça va.
Donc comme je vous l'ai dit, on va retrouver de l'agenda bien sûr. On retrouvera Mon Gramont à moi, un Mon Gramont à moi réalisé dans le froid, dans un abribus. Néanmoins, un très intéressant Mon Gramont à moi, donc d'une jeune habitante qui a quitté le quartier, qui est retournée, qui donc nous donne son point de vue sur son quartier. On va également retrouver éventuellement une petite surprise de monsieur Ousmane. Il va falloir que j'aille voir avec lui s'il a préparé ça. Et puis bien sûr Doc Mansour. Et ensuite comme invité nous recevrons, donc je regarde Ousmane, Richard Dragon, donc qu'on connaît bien sur Radio HDR, puisque c'est celui qui nous fait donc la super émission Bass Jam Radio Show, c'est bien ça ?
Effectivement, donc c'est notre invité de cet après-midi. Donc voilà, comme les auditeurs de la Radio HDR le connaissent déjà, même s'ils ne l'ont peut-être pas tous vu, mais voilà, ils l'ont déjà entendu, c'est sûr et certain. Donc il sera là pour parler de son projet de studio, de label, donc voilà, qui va produire des artistes locaux, et il sera là pour vous parler de ce projet de studio.
Super, et donc en attendant on va retrouver un groupe dont Inchati vous parlait, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi, en début de semaine en tout cas, donc le groupe Naive New Beaters avec leur morceau Jersey sur le mix des cultures.
17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Le groupe Naive New Beaters Taking Their Time to Perfect the Beat avec Jersey donc sur Radio HDR, de toute évidence des grands fans de Dr. Dre, bien sûr que vous pouvez retrouver ce soir au 106 à 20h, alors à ne pas louper, je ne pense pas qu'il y ait encore des places, je ne sais pas, dans le doute allez voir donc sur le site du 106, si je ne m'abuse, je crois que c'est le 106.com, chère Inchati, il me semble.
Oui, c'est ça.
Oui, Inchati qui connaît très bien le site du 106, elle vous tient au courant de toutes les infos du 106 dans son agenda, mais ce soir elle a repéré d'autres trucs, Inchati.
Oui, pour ce soir, je vous invite à aller voir le concert. Le
Elle
concert
doute.
De Au Loin Carmen qui aura lieu aux Trois Pièces Music Club qui se déroulera au 49 place du Général de Gaulle à Rouen. Le concert commencera à partir de 21h jusqu'à 23h. Et c'est gratuit, mes chers amis.
Ça, on aime bien quand c'est gratuit.
Oui.
Oui, donc c'est juste à côté le 3 pièces Music Club, j'en profite, hein, je profite de ce petit silence, c'est juste à côté de l'hôtel de ville, donc c'est difficile de louper, vous allez à côté de l'hôtel de ville, vous verrez le 3 pièces Music Club, il y a tout le temps plein de musique au 3 pièces Music Club.
Oui, c'est ça.
Elle est motivée, vraiment une chatie, je te sens en pleine forme ce soir.
Oui.
Effectivement, si, on la sent ici à côté.
Est-ce que tu nous as repéré d'autres informations, une chatie?
Oui, et pour demain soir, si vous avez... pas quoi faire, vous pouvez aller voir à la résidence Imperium Gallorium. Il y aura un soirée festive animé par le groupe AMC qui chante du house. Soyez nombreux, mes chers amis.
Bon, alors pour le coup, l'Imperium Gallorium, c'est rue Beauvoisine, je crois. Donc ça, c'est pareil, on peut retrouver souvent, c'est très électro, très techno, je ne connais pas très bien. En tout cas, si vous aimez la musique un peu électronique, eh bien, c'est certainement l'endroit où être. Et je crois qu'Inchati vous a repéré un troisième événement.
C'est pour parler de la journée porte ouverte sur les hautes en chantant.
Ouais, alors qu'est-ce qui va se passer? Je sais qu'on en parle beaucoup, mais ça fait toujours du bien d'en reparler, chère Inchati.
Alors pour cette porte ouverte, il y aura des découvertes d'instruments, chants et musique du monde avec Philippe Gibaud, Amélia Fayard, les musiciens de Galaor et des invités. À partir de 10h à midi, il y aura tout ça. Et de 12h30 à 13h, il y aura une repas partagé. De 13h30 à 14h, il y aura une sieste musicale. Je ne sais pas si c'est vraiment une sieste, mais...
Alors, j'ai cru comprendre que ça consisterait surtout en un moment de relaxation sur des transats en écoutant de la musique que du sous-continent indien.
Je ne sais pas, vous pouvez aller découvrir ça. Hein. Je ne peux pas vous dire si c'est ça ou pas.
Ça s'appelle de la méditation guidée, non?
Oui, non. Je crois d'ailleurs qu'il chatite en méditation.
De 14h à 15h, il y aura des ateliers de chant du monde. Et de 15h à 16h, il y aura de la danse du monde.
Merci à toi, Inchati, pour ce petit agenda, bien sûr. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Eh bien, je vous propose de retrouver mon Gramo à moi, puisque pendant qu'Inchati travaille dur à préparer son agenda, eh bien, moi, je pars dans le froid pour vous, chers auditeurs, à Gramont, pour demander aux habitants ce qu'ils pensent de leur quartier. Et on en retrouve le résultat maintenant.
Ça fait combien de temps que vous êtes à Gramont?
Alors, ça va faire plus d'une dizaine d'années.
Ah, du coup, vous avez vu le quartier changer ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est top. Le quartier a changé, les habitations ont changé, les gens ont changé, parce que les jeunes sont devenus grands, ils sont partis, ils ont évolué, donc c'est que du plaisir.
C'est que du plaisir, est-ce que vous avez un petit plaisir en particulier? Est-ce qu'il y a eu un changement qui a pour vous été significatif?
Alors oui, ça a été significatif dans le sens où en fait tous les jeunes avec qui j'étais, aujourd'hui je les croise dans le quartier et chacun a eu sa situation, chacun a évolué à sa manière. Et en fait c'est toujours un plaisir de les revoir et de se rappeler ce qui s'est passé à l'époque du collège, du lycée et de les voir chacun avoir pris un chemin, chacun différents, mais voilà, ils sont devenus de bonnes personnes.
Du coup, vous n'envisagez même pas l'idée de quitter Gramont éventuellement, c'est chez vous ici?
Alors, pour être honnête avec vous, j'ai quitté la région, mais je suis revenue. En fait, non, c'est Gramont, c'est notre quartier, ça a beaucoup changé et c'est que du positif.
Qu'est-ce que vous aimez bien faire dans le quartier pour passer le temps? Genre, admettons que vous partiez avec des camarades de l'école à l'époque et vous avez envie de passer du temps dans Gramont, que si vous faites aller au parc, à la bibliothèque peut-être?
Alors, c'est le parc et c'est marcher. Marcher tout le long du quartier. Ne serait-ce que pour aller à Intermarché qui est à côté, comme vous avez dit, le parc Gramont. Non, c'est vraiment un plaisir de marcher dans un quartier qui a changé, qui a beaucoup été catalogué surtout.
Il continue à changer, le quartier Gramont, ou est-ce que c'est terminé?
Alors, il y a quand même encore du changement. Oui, il y a encore du changement et je pense qu'il y en aura encore.
Bon, alors vous êtes optimiste pour l'avenir?
Parfaitement, obligé.
Et pendant que ce PAD, mesdames et messieurs, pendant que ce petit morceau de parole de nos amis de Gramont passait, eh bien, il est arrivé, il s'est glissé très discrètement. Il est tel le papillon et il pique tel la guêpe. Bien sûr, monsieur Odia, bonsoir Odia.
Bonsoir.
Odia, donc, qui était parti un petit peu en petit reportage pour vous, chers auditeurs, et qui en même temps préparait une petite chronique pour expliquer ce qu'il a surpris, donc des différences dans les normes de politesse entre son pays d'origine, le Nigeria, et la France. C'est ça, Odia ?
Ouais, c'est ça.
Explique-nous ça, Odia.
En fait, si on peut la différence être le respect au Nigeria et en France. Ben, il y avait un jour, j'étais dans la rue avec des amis et j'ai vu un mec, un grand homme. Un mec, il dit bah, quand je pars, tu regardes-moi dans les yeux, tu vois. Mais après. Après, moi, de ma tête, je dis, mais au Nigeria, on fait pas ça. Et normalement, si par exemple, ton père, il part à toi, tu ne regardes pas dans les yeux. Tu fais ta tête, tu ne regardes pas et tu ne parles pas. Même s'il dit, tu es stupide ou quoi, tu ne réponds pas oui ou non. Les questions comme ça. Si il dit des trucs bizarres, ouais, normalement, il y a nos parents, oui, ils sont en colère, tout comme ça. Il dit tu reviens pas, tu rien, et même au lycée ou au collège. Mais normalement il y a des gens qui viennent en retard dans le lycée, le prof dit moi de pourquoi tu es en retard, il dit je sais pas. Mais normalement tu n'as pas le droit de dire ça au Nigeria. Mais je sais pas, peut-être en France tu as le droit, mais au Nigeria tu dis pas je sais pas, tu dis tu viens avec ta mère. Ouais, c'est sûr ça, tu dis maman bah je sais pas, je suis en retard, et tu cherches pour des bonnes excuses pour dire ouais j'étais mais tu dis pas je sais pas ou et non maman t'es je sais pas comment on dit t'es puni, je sais pas, en anglais on dit punished, voilà, et
tu seras donc puni,
voilà. Oui, tu vas aux toilettes, tu vas lever les toilettes, des trucs comme ça. Mais en France on fait pas ça. En France on dit va vie scolaire, tout ça comme ça. Après il dit, il écrit un mot dans son carnet, il dit dans le carnet, il dit tu montres ça à ta mère. Mais après il rentre chez sa mère, il dit rien. Mais en Afrique, si on est retard et nous l'école, après nos parents, ça va être en pot, ça va être chaud.
Alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais je me rappelle qu'en mon temps, moi-même, je trouvais de sacrées excuses pour ne pas me faire choper. Je vois qu'Ousmane a l'air interpellé par le sujet. Ousmane, j'ai l'impression que tu es arrivé en retard 2-3 fois au lycée, non?
Moi, arrivé en retard au lycée, bah, j'avais surtout peur que mon père découvre ça pour pas qu'il démonte. Donc j'évitais d'arriver en retard. Après, j'adhère un peu à ce qu'il dit. Donc il y a une autre façon de voir le respect. Fixer un adulte droit dans les yeux, c'est considéré comme une espèce de manque de respect. Et donc du coup, les gens, ils baissent les yeux. Et on répond pas pour un adulte qui est en colère, surtout un parent. Mais après, c'est normal, les valeurs, ça peut changer, ça peut s'adapter aussi. Ouais. Voilà.
Bah, merci à toi, cher Odia, de nous partager un petit peu les différences culturelles qu'il peut y avoir, et c'est bien normal, entre nos pays, entre le Nigeria, la France, le Sénégal, n'importe quel pays dans le monde, bah, y a des différences, et puis bah, c'est ça aussi qui fait notre richesse. Et puisqu'on on parle, donc là je ne vois pas comment faire une transition délicate, donc je vais passer sans transition comme on dit parfois. Mon cher Ousmane, tu m'as parlé tout à l'heure des Inuits, quelque chose comme ça, qu'est-ce donc?
Les Inuits, en fait, c'est une petite chronique que nous diffusons ici, parce que voilà, c'est un projet d'audition qui s'est déroulé au 106 mercredi 22 dernier, et donc comment dire ça, donc je reprends. et ça s'est passé au 106, en fait c'était une audition pour le printemps de Bourges pour les jeunes artistes normands qui peuvent saisir de cette audition pour participer à cet événement. Et donc ça s'est passé au 106 et Mathieu Le Chevalier donc a été interviewé par Emmanuel Gouache, et puis là mardi on a diffusé une partie et la suite donc voilà juste après ça.
On s'écoute ça tout de suite donc.
Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité.
Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Les Inouïs est, je pense, le seul dispositif organisé en antenne, et je crois que ça c'est depuis le début des découvertes, à savoir le Printemps de Bourges s'est toujours appuyé sur des structures, des personnes ressources dans chaque région pour faire ce travail de repérage, parce que voilà, il y a plein d'autres dispositifs où les groupes envoient leur dossier à Paris, c'est un jury parisien qui choisit, et là en fait le Printemps de Bourges s'appuie justement sur des gens qui sont implantés, donc qui connaissent, qui sont un peu plus proches des groupes, qui ont pour mission de réunir des professionnels de la région qui vont donner leur avis et sélectionner en fait quels sont les groupes les plus prometteurs de l'année, et puis après voilà, on en arrive après au stade de l'audition, mais
c'est ce soir
l'audition. Voilà, le rôle de l'antenne, en tout cas mon rôle, c'est de faire en sorte que ce dispositif se déroule bien chaque année sur l'ancienne Haute-Normandie, hein, on est vraiment sur le 76 et le 27. J'ai ma collègue Bénédicte qui elle s'occupe de l'ancienne Basse-Normandie, on n'a pas encore fusionné, et en fait notre rôle est vraiment de réunir un jury, de faire de la promotion auprès des groupes, et évidemment aller les chercher des fois un petit peu, parce que les groupes des fois pensent que les Inouïs c'est pas fait pour eux, donc on essaye un petit peu d'aller les chercher, leur dire mais peut-être ça pourrait être intéressant, et puis ça changerait peut-être dans ton style, voilà, bon bref, organiser un jury, réunir un jury qui est éclectique, qui est aussi représentatif de la région, que ce soit des salles bien évidemment, mais aussi des médias, des labels, des tourneurs, enfin tous les gens qui gravitent un petit peu autour de la musique, procéder à cette sélection, organiser cette audition qui cette année est à Rouen, et vraiment c'est toujours un plaisir d'organiser cette audition au 106, parce qu'il y a toujours un public très nombreux et les conditions sont idéales, et on fait tourner cette audition, c'est à Évreux des fois, c'est au Havre des fois, voilà, ça tourne, et puis après toutes les antennes vont défendre à Paris, à partir de début février, les groupes qui ont joué. Et moi, j'ai aussi pour mission d'aller voir ce qui se passe dans les autres régions. Donc, j'ai une vision un petit peu plus large. On va défendre ça à Paris. Et puis, là, actuellement, au stade des auditions, il y a 150 groupes qui se produisent sur scène en France. Et il y en aura 30 qui auront la chance d'aller jouer à Bourges au mois d'avril.
Il y a des esthétiques particulières qui ont peut-être plus de chances que d'autres, ou est-ce que véritablement le Printemps de Bourges et ces Inouïs du Printemps de Bourges, ces sélections, elles sont vraiment ouvertes à tous?
On va dire qu'il y a des mouvances, mais qui correspondent plus aux nouvelles mouvances. Enfin, par exemple, quelque chose qui est intéressant à constater, c'est que cette année, on a eu beaucoup plus de projets hip-hop dans les candidatures qu'habituellement. Le hip-hop boudait toujours un petit peu Bourges depuis quelques années, les groupes postulaient pas. Cette année, on a eu un nombre assez important de projets hip-hop, et par exemple en musique électronique où on avait beaucoup de projets sur les années précédentes, il y en avait moins cette année, donc on sent les courants musicaux, les pratiques musicales évoluent, les esthétiques se décloisonnent, se décomplexent aussi d'aller sur des dispositifs comme Bourges, et en l'occurrence, tout le monde a ses chances, quelle que soit son esthétique, d'aller jouer à Bourges, si tant est soit qu'il y ait une singularité, une originalité et puis un peu d'innovation dans ce qui est proposé, parce que les Inouïs affirment cette position de dire nous, ce qu'on cherche, c'est la musique de 2020, quoi.
Et puis c'est l'occasion, j'imagine, de voir un peu où en est la scène normande, c'est-à-dire que tout à coup, on reçoit profusion de projets. Qu'est-ce qu'on peut dire de la scène normande aujourd'hui? Ça a été dur de choisir les 5 groupes qui sont là ce soir?
Alors cette année, oui, particulièrement, avec, je dirais pas une particularité par rapport aux autres années, mais rien n'était évident dans les choix. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des trucs, il y a des grosses machines. Les années précédentes, on a eu Petit Biscuit, on sentait évidemment que ça allait exploser. L'année d'après, on avait eu Riles, évidemment, c'est pareil, on sentait le potentiel public qu'il y avait. Ça fait 2 ans où on n'a pas de grosses machines comme ça, même si les artistes, quand ils ont joué, étaient encore vraiment au stade de développement. Cette année, il n'y avait pas de grosses machines. Par contre, je pense qu'on aurait pu faire 2 auditions. Je pense qu'on aurait pu mettre 10 groupes sur scène, parce que le choix final des 5 groupes a été un arrachement pour certains membres du jury qui devaient choisir entre leur père et leur mère, quoi. Enfin, c'était vraiment
ça s'est bagarré, ça se bagarre un peu quand lors des écoutes comme ça.
Ça se bagarre pas vraiment, le jury,
personne qui sort dans la rue.
Non, le jury joue vraiment son rôle de façon professionnelle et sait aussi se plier au choix de la démocratie, hein. Je dis pas que effectivement un jury de toute façon c'est forcément injuste, il y a forcément des groupes qui sont sélectionnés, d'autres non. C'est une question de majorité, c'est une question de consensus, donc voilà, on peut se dire ah merde, on est peut-être passé à côté d'un projet cette année, mais malheureusement il n'y a que 5 places, donc il a fallu faire un choix, et cette année il a été particulièrement dur avec cette particularité, c'est qu'il y a plein de nouveaux projets. Il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Et alors moi, ma frustration, parce que j'ai fait de la musique aussi il y a quelques années de ça, les groupes arrivent là actuellement, les artistes arrivent, ils sortent un truc, le premier truc, et ça sonne déjà terrible. C'est déjà mature, c'est déjà d'une qualité assez haute. Le niveau est déjà assez élevé. Et des fois, c'est des projets qui n'ont jamais joué sur scène. Donc il y a aussi un petit redimensionnement de comment on développe un projet, c'est-à-dire qu'effectivement l'accès aux outils numériques de MAO fait que les groupes ont un petit peu plus la possibilité de produire chez eux et de se poser la question de la scène un petit peu après.
Nous interrompons pour quelques instants nos émissions afin de procéder à la synchronisation de nos réseaux.
Vous aimez mieux les disques que la radio?
Tais-toi, je réfléchis.
Je vais mettre la radio.
Ça marche ? Oui, dear.
Ousmane, tu souhaitais prendre la parole avant que l'on la laisse à celui qui fait peur à tous les Hauts-de-Rouen.
Justement, quelques petites précisions par rapport à ce doc qu'on vient de diffuser. Donc demain à midi, vous pouvez donc écouter une partie ou l'intégralité, donc à partir de midi, et à partir de la semaine prochaine, donc voilà, tout l'entretien sera sur le site de la radio, voilà, radiohtr.net. Donc voilà, si ça vous intéresse aux artistes et aussi aux amateurs de festivals, pourquoi pas.
Parfait. Si vous vous intéressez aux dictatures monstrueuses, aux différents mercenaires assassins du monde, à toutes les pathologies qui peuvent vous amener à manger votre prochain, eh bien, l'homme qu'il vous faut, c'est le Doc Mansour qui est là. Oula, il fait une tête qui m'inquiète, Doc Mansour. Rebonsoir, Doc Mansour.
Bonsoir.
Où est-ce qu'on s'en était arrêté, cher Doc Mansour ?
Donc, on s'en était à l'eugénisme français, juste au sortir de la Première Guerre mondiale.
D'accord.
Donc, si vous voulez, on va continuer. Et en fait, en France, ce qui se passe, c'est qu'il y a une opposition à cet eugénisme, mais qui est prêt à plus ou moins composer avec un eugénisme positif, on va dire. Ah. Et en fait, c'est l'Église catholique et les bons chrétiens qui, en fait, avec l'encyclique de 1930 sur le mariage chrétien. Et le fait de... Les natalistes veulent quand même des enfants, mais il ne faut pas oublier que le traumatisme de la Première Guerre mondiale fait que la natalité avait largement chuté.
N'importe quel enfant pourvu qu'il puisse tenir un fusil.
Voilà. Et en fait, en 1918, en novembre exactement, le 9 novembre, fut signée la création, du moins, l'émergence de la République de Weimar.
Ok, donc là c'est la République en Allemagne, c'est ça ?
Voilà. Et en fait, l'eugénisme allemand va se développer pendant la République de Weimar en réalité. Et en fait, les polytechniques, les polycliniques, les cliniques très spécialisées sur la médecine hygiéniste, qui se développe aussi en France. Et en fait, il y a une confusion entre l'eugénisme et la médecine hygiéniste.
Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine hygiéniste ?
Donc, c'est ce qu'on appellera la promotion de l'hygiène sociale, c'est-à-dire une médecine plus propre. Et on veut que les individus, socialement et physiquement, et au niveau de leur santé, soit beaucoup plus propre, on va dire.
Okay.
Par exemple, Louis Ferdinand Céline, de son véritable nom complet, était médecin hygiéniste.
D'accord, et un homme qui a fait beaucoup de choses, monsieur Céline.
Oui.
Et qui pourtant sera un petit peu hygiéniste par la suite, non ?
Pas forcément, mais il aura d'autres idées.
Oui, il aura certaines sympathies, effectivement.
Et en fait, c'est à cette époque-là, en fait, principalement en Allemagne, où là, on voit une espèce de jonction concernant ce qu'on appellera les soins non hospitaliers. Les spécialistes de la médecine sociale collaborent activement avec les psychologues et les psychiatres.
D'accord.
Et principalement, les spécialistes de la jeunesse et des travailleurs sociaux.
Ok.
Donc là, on va détecter des gens qui, qu'on va considérer comme, entre guillemets, marginal ou faible socialement, c'est-à-dire les gens de petite taille qu'on appelle vulgairement les nains, les handicapés.
Je me sens personnellement offensé par cette assertion.
Et ceux qu'on appellera les déficients mentaux. Et en fait, à partir de là, commence une politique qui avait déjà commencé aux États-Unis, comme on avait vu. En fait, on va commencer à les stériliser de force.
D'accord.
Donc, qui fait quoi et pourquoi ? Donc, l'objectif étant d'éliminer les individus dits inférieurs, susceptibles de transmettre des handicaps psychologiques et physiques dans le cadre d'un État démocratique. Okay. La République de Weimar. On n'est toujours pas pendant le Troisième Reich qui arrive tout doucement.
Comme quoi, ça a commencé bien plus tôt qu'on le pensait.
Oui. Et dans cette politique, on encourage ceux qui ont une haute qualité génétique à fonder des familles nombreuses. Et en fait, il y a même eu des mesures incitatives. Le Kinderreich.
Tout est dans le nom.
Voilà. À pas confondre avec les œufs Kinder. Et en fait, c'est dans un cadre d'économie humaine qu'on développe tout ça. Vu que tous ceux qui ne sont pas aptes ou faibles par rapport à la génétique coûtent cher.
Ouais.
On avait déjà vu ça la semaine dernière, mais là, la PIRIC-MAIVAR voit ça aussi. Et en fait, tous ces projets-là visent en priorité ceux qu'on va classifier de psychopathes, les vagabonds, les malades physiques, les handicapés mentaux, et ne concernant pas encore les minorités ethniques.
Oui, mais finalement, ça part pas de soi dans cette logique-là. On peut être une minorité ethnique sans forcément... Voilà.
Voilà. Et en fait, c'est là qu'on vient, en fait, parce que la République de Weimar et les penseurs de tout cela pensent que la population est un facteur capital organique de l'État.
Ok. Oui, mais ça semble presque logique, finalement.
Oui. Donc, en fait, ils vont créer une biogestion de la santé publique et de l'aide sociale, parce que tout est couplé. Donc, on va encourager les gens à porter leurs enfants et voir à les faire euthanasier.
Ouais.
Donc là, on commence à voir une autre façon, une autre facette de ce pouvoir qu'est la République de Weimar, qui en plus, à l'époque, c'est un peu le chaos. Vu avec la crise de 1929 qui a frappé très fort, c'est que l'Allemagne, qui était en train de rembourser une dette de guerre en empruntant aux banques américaines, les banques américaines ne pouvant plus leur prêter, ne pouvaient plus rembourser leur dette de guerre.
Oui, l'Allemagne est aux abois au sortir de cette Seconde Guerre mondiale.
Oui, mais surtout à partir de 1929 surtout.
Ouais.
Donc là, on assiste clairement à des luttes, quasiment des émeutes de guerre civile, parce que les partis politiques à l'époque se tiraient dessus, courtoisement.
Les Spartakistes, c'est quand? C'est avant ça?
C'est juste en même temps.
D'accord, bon bah voilà.
Ils arrivent, ils sont là, et donc ils tirent sur les militaires qui sont désœuvrés parce qu'ils n'ont plus d'emploi, ils n'ont plus de soldes, donc ils se retrouvent sans rien. Les fractions d'extrême droite qui sont multiples.
Oui, c'est aussi l'époque des ligues fascistes, non, même en France.
Voilà. Ouais. Voilà. Et les communistes qui, pareil, sont armés et tabassent le camp adverse.
C'est une vieille tradition.
Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas homogène. L'office de santé... Lui, en fait, va demander et faire passer des circulaires, mais selon les régions, c'est-à-dire la Prusse, la Bavière et la Saxe, eh ben, chacun l'applique un peu comme il veut.
On pourrait s'aventurer à dire que c'est un peu la Hesse, non?
C'est un peu l'anarchie.
Voilà.
Mais en même temps, on voit qu'il y a des cliniques spécialisées qui vont faire des consultations matrimoniales et des cliniques, elles, qui vont se spécialiser dans les questions de l'hérédité.
D'accord.
Donc, en gros, c'est éliminer tout ce qui peut nuire à la génétique de la bonne société. Mais en simultané, on découvre des textes et on redécouvre la mythologie.
La mythologie.
La mythologie nordique et germanique.
Mais quel rapport ?
Justement, la grandeur de l'homme celtique et surtout la traduction de Zarathoustra, qui donnera Nietzsche un petit peu avant. Donc on relie le surhomme. Et on imagine que le surhomme, c'est l'homme parfait, l'homme génétiquement parfait.
C'est un curieux mélange quand même, des Germains qui se renseignent sur la mythologie nordique pour devenir les meilleurs celtiques en écoutant Zarathoustra. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ah bah, en lisant Zarathoustra.
Oui, oui, puisque là pour l'écouter, c'est un petit peu tard, mais...
Et bah, voilà, ils redécouvrent en fait qui ils sont, parce qu'il faut en fait recréer quelque chose qui puisse unir le peuple allemand.
Un esprit national un peu.
Voilà.
Un peu ce qu'on a fait en France avec les Gaulois, par exemple.
Entre parenthèses, c'est ce que Nietzsche reprochera à Wagner.
D'accord.
D'être trop germanophile.
Comme quoi ?
Que Nietzsche est classé par moi dans une certaine branche, mais il ne l'est pas. Donc en fait, le truc, c'est que les cliniques et les médecins sont totalement subventionnés par l'État à l'époque. Et l'idée eugéniste, non seulement va se propager au plus en plus, et en fait, le ministère prussien de la direction médicale, Otto Kahn, lui, c'est la protection sociale, c'est jusqu'à l'élimination de toute personne non apte à la société.
Oui, finalement, la sécu, c'est un peu plus soft quand même.
Oui, c'est beaucoup plus soft. Mais voilà, en fait, tout ceci va amener Le chancelier Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933.
Bon, là, les vrais bails commencent, comme disent les jeunes.
Donc, les premières lois qui vont être là, elles vont être commencées à être établies. Et en fait, on va généraliser ce système, en fait.
Ouais.
Donc là, la mythologie du surhomme, du grand germain, arrive.
Du coup, de cette naissance de la mythologie du grand germain, comme vous dites, Doc Mansour, c'est là qu'apparaît un peu la notion raciste aussi de cet eugénisme.
Elle l'était déjà, mais là, elle va être d'accord. Un peu plus prononcée. Parce que non seulement on va en faire un mythe, mais on va en faire un modèle.
Mais c'est quand même assez curieux, parce que finalement, quand on voit Adolf Hitler ou certains de ses proches, comme Goebbels, par exemple, on n'imagine pas forcément Siegfried, quoi, quand on les voit, non ?
Non, c'est vrai. Et pour l'anecdote, une des grandes affiches qui était la plus connue, c'était un soldat allemand fier et qui avec un regard fier. Et en fait, ça peut savoir que le modèle était un juif allemand.
Comme quoi ?
Donc, à partir de là, donc il y a Ernest Röndel qui, lui, vétéran de l'eugénisme, qui va influencer en fait toutes les découvertes de Mendel sur la génétique. Ils vont créer des instituts statistiques et ils vont fournir aux hôpitaux psychiatriques et même aux hôpitaux généraux et à certaines paroisses, tout un recueil où on pourra, un formulaire, où selon la pathologie que vous avez, à la fin, le médecin pouvait se permettre d'écrire vivant ou à éliminer.
Est-ce qu'il y a eu des parents qui ont refusé de laisser leurs enfants mourir ?
En fait, il y a toute une partie de la société allemande qui a refusé.
Mais... ils ont été sanctionnés socialement ou...
Certains ont été sanctionnés socialement, d'autres ont un peu quitté l'Allemagne. Okay. Voyant que ça commençait, on s'attaquait aux faibles, hein, en fait, aux handicapés, aux malades mentaux.
Ils ont eu le nez creux, hein. C'était le bon moment pour partir en vacances en Suisse.
Voilà. Et encore en Suisse, ils n'ont pas très été au Pernier non plus, mais un peu plus quand même.
Bon.
Donc à partir de là, on va développer les archives centrales et la politique allemande vote des lois, cette fois-ci. Parce qu'on va favoriser quelque chose, c'est-à-dire la polygamie.
Ah.
Et on va même créer des instituts, mais pas dans tous les Länder. Hein. Certains vont accepter, d'autres vont être un peu plus réticents. Des usines à bébés, les pouponnières. Il y a un documentaire qui s'appelle comme ça, les pouponnières d'Adolf Hitler.
Donc c'est purement pour faire, comment dire,
les bons à rien,
de
monsieur.
Demain, ou est-ce que c'est une volonté de renouer avec certaines traditions
un peu des deux, on a l'impression, parce qu'il y a un peu de mystique mélangé à tout ça, parce qu'il y a eu toujours cette idée d'une grande mythologie recréée sur le grand peuple aryen qu'on arrive à plus ou moins à inviter. Et en faisant ça, en fait, non seulement on va éliminer une grande partie d'enfants, malheureusement, petit à petit on va éliminer les handicapés, les nains on va les enfermer, on va dire qu'ils sont socialement inaptes, certains seront éliminés malheureusement aussi, et à partir de là, il y a les lois qui arrivent, et cette fois-ci on va viser certaines communautés.
D'accord.
Et parmi ces communautés, il y a les homosexuels.
C'est
une dégénérescence de la société.
À l'époque, pourtant, il y avait un homosexuel dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui était un
pont
un peu du parti nazi. Ouais.
Les SA.
Les SA, oui, tout à fait.
Oui, mais qui a été éliminé d'ailleurs lui aussi.
D'accord. Mais pour cette raison-là ou pour des raisons plus politiques ?
Politiques ou voire pour certains, un complot qui a été amendé par les SS.
D'accord.
Parce que les SS et les SA, il faut savoir qu'ils étaient en friction.
Et il y a juste quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'autant je peux imaginer qu'un nain qui se reproduit avec quelqu'un d'autre, il y a une chance que son nanisme soit transmis à ses enfants. Un homosexuel, il y a quand même assez peu de chances qu'il transmette son homosexualité. Déjà parce que vraisemblablement pas transmissible génétiquement, mais aussi parce que théoriquement, pour se reproduire, il faut certaines interactions.
Oui, mais ils ont décidé que non, c'était des gens socialement qui nuisaient à la société allemande.
D'accord, écoutez.
Et surtout au Troisième Reich. Donc les lois raciales arrivent. Et cette fois-ci, on va déclassifier plusieurs personnes qui n'auront plus le droit, aucun droit civique, en fait.
Ok, ouais.
Et en fait, imaginez ce qui a pu arriver à Vrai, c'est qu'en fait, on va totalement créer des camps, d'abord de travail, puis de stérilisation, et tout doucement passer à l'élimination de toute personne considérée inapte et non valide pour la race aryenne.
Mais pourquoi ne pas plutôt essayer de les expulser ?
Alors, ceci dit, ça a été tenté.
Ouais.
Alors, il faut savoir que dès 1941, le régime nazi, comme on l'appelle à partir de là, a tenté de négocier avec les pays voisins comme la France et même l'Angleterre pour faire rapatrier les populations dont il ne souhaitait plus avoir sa présence.
Oui.
C'est-à-dire pas que ceux qu'on appelle les Juifs, mais aussi les Tziganes et d'autres.
Ouais, du coup, la France accepte des réfugiés comme ça ?
Non.
D'accord, ouais.
Quelques-uns vont quand même arriver. L'Angleterre refuse.
Mmh.
Et certains vont se retrouver où ? En Pologne.
Ah bah oui, bon.
Bon, quand on sait ce qui se passe après.
Un an ou deux, quoi.
Voilà, ils ont gagné quelques années. Donc en fait, c'est Lee, comme le dira Paul Wengling, c'est qu'il écrira d'ailleurs dans un livre, l'hygiène de la race. C'est ça qu'il fallait.
Eh bien, c'est bien beau.
Mais tout ça est né pendant la République de Weimar, en fait. Mmh. C'est ça qui lui... Et comme je l'avais montré avant, c'était né dans d'autres pays bien avant, et tout ça remonte aux sources. Il faut savoir que dans Mein Kampf, d'Adolf Hitler, il cite beaucoup de psychologues, d'hygiénistes américains et français.
Ok, donc il avait vraiment lu. Finalement, Hitler, c'est un petit peu hors sujet, mais en même temps, on est un peu dedans. Est-ce que c'était quelqu'un de complètement abruti ou est-ce qu'il était un peu cultivé quand même et il basait ses opinions tout à fait répréhensibles sur d'autres opinions tout à fait répréhensibles?
Il a tout basé sur beaucoup de choses bien avant lui. D'accord. Il n'a en réalité rien fait. Il n'a rien inventé.
D'accord.
Tout ça, ça a existé, mais ça n'avait jamais été mis réellement en place, ou ça a été mis en place dans certains États aux États-Unis, dans certaines régions des Pays-Bas. Un tout petit peu en France, mais en France, la résistance était beaucoup plus dure et violente. Donc c'est là, au moins, le peuple avait pu réagir parce que les parents n'étaient pas d'accord, l'Église catholique n'était pas d'accord, certains ministres n'étaient pas d'accord. Donc voilà, il y a un statut très particulier pour la France. En Suisse, du fait du protestantisme très fourni, on plus ou moins aussi freiné le mouvement. Là, l'Allemagne en avait un pouvoir qui avait tous les pouvoirs. Abolition de tous les partis, éradication de tous les syndicats. La majorité des médecins devait être arien sur trois générations et abhorrer totalement la doctrine. À partir de là, on ne pouvait plus rien faire.
Ouais.
C'est-à-dire que là, il y avait plusieurs strates qui étaient touchées. Et ceux qui se trouvaient malencontreusement au milieu de ce marasme et qui n'étaient pas d'accord avaient le droit soit à l'exil ou à se retrouver sans emploi.
Et finalement, les pays voisins l'espèrent. Voire même signe des pactes de non-agression avec l'Allemagne nazie.
Oui, pour l'instant, on laisse faire. Hmm. Totalement.
C'est-à-dire, en aucun cas, on est parti en croisade contre la barbarie nazie. En fait, on a plutôt été surpris par les attaques de l'Allemagne nazie.
Voilà. Alors, il faut savoir que pendant cette période-là, il y a beaucoup des partisans de l'eugénisme allemand qui, voyant cette politique raciale être de plus en plus dure, vont créer un mouvement de résistance à l'eugénisme.
D'accord.
Parce que là, ils disent non, là, ça va trop loin.
Je retourne ma veste brune.
Bah, en fait, la plupart sont en exil en plus.
D'accord, ouais.
Donc, ils étaient obligés de vraiment fuir cette fois-ci. C'est ce qui s'est passé pendant toute cette période. Et en fait, de 39 à 44, parce qu'en 45, c'était un peu plus compliqué pour le régime allemand. En fait, on a. Pour les enfants handicapés, on compte entre 44 000 et 70 000, ce qui est colossal. Dans les cliniques que allemandes, pas à l'extérieur. Et pour les malades mentaux, en fait, ça varie selon les écrits entre 100 et 300 000.
Ok.
Et après, pour les homosexuels, c'est beaucoup plus dur à prouver.
J'imagine qu'il n'y a pas de fichier recensant les homosexuels.
Non. Alors, l'eugénisme va se calmer juste au sortir de la guerre.
Ouais. Ah, bah, ça allait être ça ma question. Est-ce que la fin de l'État nazi, ça a sonné la fin de l'eugénisme ou...
Non, en fait, non. L'eugénisme va changer de visage.
D'accord. Il
va être plus. On va appeler ça la génétique.
Ah, alors, ok.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'en même temps, en France, on a voté des lois eugénistes pendant le régime de Vichy.
Et encore aujourd'hui, certains accusent l'État français d'un certain eugénisme.
Mais comme je vous avais dit, il y a beaucoup de grands noms de l'eugénisme français qui ont contribué à travers le monde et qui ont brillé. Parfois par des théories plus ou moins soutenables et d'autres totalement farfelues.
D'accord.
Mais en fait, il faut savoir que... à l'époque, en France, quand l'eugénisme a réellement été voté comme loi par Vichy, cette loi n'a été abolie qu'en 2007.
Ouais, voilà.
Et une autre partie a été abolie en 2014.
En ceci étant, c'est des lois qui n'étaient plus du tout appliquées.
Non, plus du tout, mais il fallait quand même à un moment peut-être arriver à les enlever.
Un de ces jours, on pourra se faire une émission sur toutes ces lois bizarres qui subsistent et qu'on ne sait pas pourquoi. Il me semble qu'il y a 5 ou 6 ans, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon en France.
Oui.
Oui, j'ai entendu ça.
Voilà, donc c'était. J'en suis arrivé à mon but, c'est qu'en fait, entre la psychiatrie, la psychologie, l'eugénisme et les totalitarismes, il y a eu des liens très incestueux, on va dire.
Parfois, on a tendance à glisser dans l'histoire et à tomber dans les fosses les plus surprenantes et abjectes. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, Doc Manson, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, on met un petit morceau de musique pour vous. Ce sera Colorblind avec Bi Erotica sur le mix des cultures. We'll be right back.
Le mix.
Acheter le mix des cultures. 99.1.
Notre invité s'étant vraisemblablement perdu dans les transports publics aujourd'hui à Rouen, c'est toute une aventure. Eh bien, permettez-moi donc de vous parler un petit peu des coulisses de votre émission préférée, donc le Blabla Mix, puisque ce mardi, je devais vous faire une petite chronique sur les sorties cinéma donc du mercredi, et malheureusement, j'ai été retenu par une urgence vétérinaire de dernière minute. Je vais donc me permettre de vous parler maintenant de ce qui est sorti hier, puisque c'est certainement toujours en salle, et que vous allez certainement avoir l'occasion d'aller voir ces films qui sortent. Donc, je vous ai repéré trois films dont j'avais déjà entendu parler, qui m'ont semblé bien représentatifs. D'abord Le Lion. Le Lion, c'est quoi? Eh bien, c'est une comédie française avec Danny Boone et Philippe Catherine, donc réalisée par Ludovic Colbeau-Justin, qui, si je ne m'abuse, avait aussi réalisé la comédie Tout le monde debout avec Franck Dubosc, qui joue un mec qui se fait passer pour un handicapé. Voilà, tout un programme. Donc là, de quoi ça parle? Eh bien, c'est un infirmier en hôpital psychiatrique qui libère son patient qui prétend être un agent secret pour qu'il l'aide à retrouver sa fiancée qui a été enlevée par des mecs avec des masques de chimpanzés. C'est donc une comédie tout à fait classique à la française, avec le type en galère qui se retrouve forcé de travailler avec un François Pignon, entre guillemets, hein, une sorte de la chèvre, comme en fait finalement on a que des films comme ça dans la comédie française, j'ai l'impression. Bon, ça a pas l'air très original, les blagues de la bande-annonce m'ont fait un peu peur, ça a l'air aussi drôle qu'une fracture du genou, c'est pas du tout ma cam, mais ceci étant, il n'y a aucun doute que ce genre de film-là, si ce qu'on cherche c'est juste à se détendre, à passer un moment un petit peu rigolo, détente, en regardant Danny Boone qui fait l'andouille, eh bien ça peut être très bien, voilà, donc si vous avez envie de vous marrer un coup, peut-être que c'est une bonne option. Sinon, un film qui n'aura certainement échappé à personne, puisqu'on envoie des bandes annonces partout sur internet en permanence depuis je dirais bien un mois, c'est Jojo Rabbit, une comédie dramatique donc par un réalisateur qui s'appelle Taika Waititi, et en dépit de ce nom tout à fait original, eh bien je ne connaissais pas ce monsieur. Alors de quoi ça parle? Eh bien Jojo est un jeune allemand qui vit sous le joug du Troisième Reich, son ami imaginaire est même une version enfantine d'Adolf Hitler, donc un Adolf Hitler un peu rigolo, et son embrigadement va en prendre un coup quand il va découvrir que sa mère cache une juive dans leur grenier. Donc c'est vraiment difficile en ce moment d'échapper à ce film, vraiment on le voit partout, dès que vous allez sur YouTube, vous allez chercher une vidéo, vous savez cette bande-annonce qui apparaît. Ça a l'air honnêtement très drôle, ça a l'air d'être un regard très intelligent sur l'embrigadement, finalement on en parlait un petit peu avec Doc Manson il y a quelques minutes, et je pense que ça peut être une très bonne idée d'aller voir, ne serait-ce que pour l'expérience, voilà, pour voir ça. Et puis sinon, le film qui a l'air d'être un petit peu le thriller classique du moment, donc, c'est Les Traducteurs de Régis Roinsart avec Lambert Wilson et Olga Kurylenko. Lambert Wilson, cocorico, monsieur Wilson, le dernier roman d'un auteur star donc qui arrive en processus de traduction, et les 9 traducteurs choisis sont complètement confinés dans une sorte de palais bunker afin de s'assurer que rien ne filtre de ce roman à l'extérieur. Pourtant, les premières pages du roman sont dévoilées sur internet et un mystérieux maître chanteur exige une rançon, menaçant de dévoiler petit à petit le roman sur internet. La bande annonce, je vous cache pas qu'à la base le projet ne m'intéressait pas franchement.
Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis?
Je te dirais que la bande annonce m'a vraiment hypé dans le truc, m'a donné envie de voir ce film. Pourtant, je trouve que tout autour du film, alors je peux me tromper, d'ailleurs je me trompe très souvent dans ce genre de questions, mais j'ai l'impression que le scénario est évident. Voilà, alors je peux me tromper, bien sûr, j'ai déjà mes petites hypothèses, j'irai certainement le voir. Mais néanmoins, si la bande-annonce a réussi à me donner envie d'aller le voir comme ça, bah aucun doute que la réalisation risque d'être très intéressante. Donc bah écoutez, allez le voir, et puis même si vous n'allez pas le voir parce que vous avez envie de voir un thriller qui vous fait peur, bien allez le voir pour Lambert Wilson. Voilà, notre petite fierté nationale, Lambert Wilson avec toujours son air très pincé, très guindé. Il joue le même type constipé depuis 30 ans, et puis bah on est toujours content de le retrouver. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir retrouver? Bien, je vous propose de retrouver de la musique, à moins que monsieur Diop ait envie de parler
cinéma. Non, nous partons en musique. J'allais dire Lambert Wilson, c'est toujours la classe.
Lambert Wilson, c'est la classe. C'est un peu Christophe Lambert, mais qui aurait pris du lithium. Tu vois ce que je veux dire?
Pourquoi pas, ouais.
Voilà. Bon, alors, on salue bien sûr Christophe Lambert. Bonsoir à toi, cher camarade. On écoute tout de suite Raled avec Didi sur le mix des cultures.
Sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
17h53, chers auditeurs, je vois qu'Ousmane a un petit papier à la main, mon cher Ousmane.
Ma, comme disent les Italiens, ma, notre invité, il est pas là. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais ce que je peux. Non, du coup. Donc je vais vous parler des concerts autour du monde, les concerts autour du monde. Donc voilà, organisés par l'Étincelle ici à la salle Jouvet à côté. Donc voilà, vous connaissez déjà Amélia Fagar et Philippe Gibault. Donc voilà, qui s'occupent de l'organisation de ça. C'est à destination des adultes des Hauts-de-Rouen et pas que, et des gens de partout. Donc ici sur les Hauts-de-Rouen, Philippe Gibault, donc voilà, vous reçoit de 10h à midi, donc le vendredi 6, 13, 20 mars. Donc voilà, ça se passera à la salle Jouvet. Donc vous pouvez aller là-bas le vendredi 6, 13, 20 et 27 mars pour danser, chanter avec Philippe Gibault. Sinon, vous pouvez opter pour Amélia Fagar. Damien, tu préfères danser avec Philippe Gibault ou Amélia Fagar?
Bah, je crois qu'il est préférable que je chante plutôt que je danse, même si ma voix est un peu dégoûtante, moins que mes mouvements, mon cher Ousmane.
En tout cas, tu auras le choix, tu feras ton choix. Donc voilà, ça sera la chorale avec Amélia Fagar. Donc ça se passera aussi de 18h à 20h les lundis, le 2, le 16, le 30 mars. Donc voilà, ça se passera toujours à la salle du Jouvet. Les répétitions, c'est quasiment les mêmes horaires de 18h-20h. Et puis voilà, le 25 mars, le 25 et le 28 mai 2020, ça se passera ici sur les Hauts-de-Rouen, à la salle du Jouvet. Donc voilà, c'est juste un petit info pour les adultes qui nous écoutent, qui veulent lever le pied ou lever la voix.
Super, super. Eh bien, merci à toi, mon cher Ousmane, de nous parler des nouvelles, donc des petits événements qui se passent pour nous faire passer le temps. Eh bien, moi, j'ai des bonnes nouvelles pour nous tous, chers auditeurs, chers amis. Moi, qui suis tout le temps persuadé d'avoir attrapé les pires maladies tropicales qui n'existent plus depuis 100 ans. Eh bien, parlons un petit peu coronavirus, bien sûr.
Alors, ils l'ont chopé?
Vous savez qu'on a failli choper le coronavirus. À Rouen, on a failli être le quatrième cas, mais la troisième ville de France atteinte du coronavirus, qui nous aurait fait, après Lubrizol, certainement beaucoup de bien au niveau commercial. Hein, la ville de Rouen est actuellement certainement la ville la plus fuie de l'histoire de l'humanité. Hein. Je pense que juste devant nous, il y a Pompéi, c'est tout, derrière nous, c'est nous. Eh bien, en fait, non, ce fameux cas de coronavirus suspecté, bien non, c'était juste une personne qui avait un peu mal à la tête, je crois. Voilà. Donc, salut à elle, j'espère qu'elle est contente de ne pas être un sujet test pour expérience médicale dans le but de sauver l'humanité d'une apocalypse terrible. Et puis voilà, je propose qu'on se détende un petit peu en attendant la fin de cette émission, qu'on s'écoute un petit morceau, mon cher Ousmane.
Bien sûr, bien sûr. Je pense que le coronavirus, il a senti l'odeur de Lubrizol, donc il s'est dit, je crois que je peux aller voir ailleurs, il y a un peu de place ailleurs pour l'instant.
Rassurez-vous, bien sûr, chers auditeurs, si jamais Rouen devient le point central, le patient zéro d'une maladie extrêmement dangereuse et très infectieuse, eh bien il suffira d'attendre que Lubrizol explose pour sauver l'humanité. Sur ces belles paroles, on s'écoute un morceau de musique, donc Cocoon, dont vous parlez, l'ami Inchati également, en début de semaine, qui seront très bientôt en concert. Je vous en dis plus après le morceau. Pour l'instant, je vous laisse profiter, donc Cocoon avec Back to One sur le mix des cultures.
I was the king of the castle, with you by my side. Left you alone for the battle, I was gone when you cried. Never thought I'd be the asshole who blew out the flame. I'm broken in more ways than I know, but keeping the faith. Some fools say butterflies don't stay. It's been begging me to wake up. Without your love, I take my chances, putting something fancy. Baby, we'll be dancing back to one, back to one, back to one, back to one, back to one. We were keeping our secrets and growing apart, missing.
tasting the taste of your sweetness. When you laid in my arms, honey, I'll take all the pieces of your broken heart, and I keep on giving you reasons to go back to the start. And some fools say butterflies don't stay. It's been bugging me to wake up without your love. I take my chances, putting something fancy. Baby, we'll be dancing back to one, back to one. Flies don't stay. It's been bugging me to wake up without your love. I take my chances, putting something fancy. Baby, we'll be dancing back to one, back to one.
Donc avec Back to One sur le mix des cultures, obligé de vous l'interrompre chers auditeurs puisqu'il est déjà donc 17h59, l'heure bientôt de se dire au revoir. Il me reste juste le temps de vous rappeler que après cette émission vous pourrez retrouver la rediff de Campus Mag sur le 99.1 ou sur radioagr.net, et chez nos amis de Principe Actif dès 19h vous retrouverez votre émission Rock'n'Roll avec Laisse le Bantin Rouler. Voilà, voilà qui donc conclut notre émission. Bien sûr, je vous salue tous chers auditeurs, je salue bien sûr monsieur Ousmane. Salut monsieur Ousmane.
Salut et à demain avec notre invité, l'artiste L'Épée, donc voilà, qui vient d'Evreux et qui sera là. Restez à l'écoute.
Quant à moi, je vous dis à lundi. Je salue également madame Inchati. Je salue monsieur Mansour.
Salut.
Je salue vous tous, bien sûr, chers auditeurs. À demain dans le mix des cultures. À demain pour le Blabla Mix. À un lundi avec moi, certainement, dans le Blabla Mix.